Christophe Deluze, vous êtes avec nous, pianiste, votre dernier disque. Alors, ça fait un petit moment qu'on se connaît, qu'on vous suit sur Espace 2 dans différentes émissions. Je vous ai reçu il y a déjà une dizaine d'années, presque, pour un disque concernant César Cui, peut-être le moins connu du groupe des Cinq, compositeur russe, la musique de Scriabine également, la musique de Kabalevski. Vous avez notamment suivi l'enseignement d'un grand maître de la musique russe. Et là, donc, vous avez décidé de changer un petit peu votre direction. Vous tournez le dos aux musiciens russes avec Erik Satie?
Non, mais dans la production discographique, je fais une pause. Mais j'aime la musique de Satie et je la joue et je la travaille depuis que je suis adolescent. Mmh. Ça fait des années et ça fait des années que j'avais envie de faire un disque Satie. Et donc, on l'a concrétisé maintenant.
C'est Praga donc, qui distribue ce disque choix d'œuvres pour piano. Hein. On n'est pas devant des intégrales ou des programmes complets. On va en parler, justement, de l'élaboration de ce programme qui a dû être une étape assez importante dans la fabrication du disque. On va écouter un peu de musique. Alors, quand je dis un peu de musique, c'est effectivement un peu de musique parce que les pistes de Satie, elles sont souvent assez courtes. On parlait de Russie, on parlait de France. Et bien, en fait, avec cette musique, on va partir en Espagne. Voilà, Christophe Deluze, donc au piano, extrait de ce disque choix d'œuvre pour piano d'Erik Satie, paru chez Praga. On vient d'entendre Espagnania, c'est comme ça qu'on doit dire, Christophe
oui,
Deluze.
Oui, Espagnania, oui.
Donc
oui.
On est quoi là? On est devant Erik Satie qui se moque de Chabrier, c'est un peu ça?
Il se moque, il avait beaucoup d'humour et c'est vrai qu'il aimait bien se moquer des autres, mais il se moquait aussi de lui-même.
Pas mal d'autodérision aussi dans le personnage. Alors les titres, justement, hein, on parle souvent des gymnopédies, des gnossiennes également, qui ont d'ailleurs des noms un peu énigmatiques. Hein. Tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une gymnopédie. Finalement, vous le savez, Christophe Deluze, qu'est-ce que ça veut dire, le mot gymnopédie?
Oh, il y a plusieurs interprétations possibles, mais Erik Satie aimait beaucoup les devinettes. Et beaucoup de ces titres n'ont pas de réponse définitive. Ça nous amène à réfléchir. Pour gymnopédie, ça renvoie probablement à un terme grec, et je l'explique dans le livret, où il donne la solution dans un poème de Cicéron, où il parle de l'érotisme grec, et probablement ça fait notion à des poèmes érotiques grecs, mais on n'en est pas tout à fait sûr.
Alors sur votre disque, il y a notamment 5 grimaces pour le songe d'une nuit d'été, il y a également croquis et agaceries d'un gros bonhomme en bois, on va parler d'embryons desséchés aussi, je crois qu'il n'est pas sur votre disque, mais il y a une œuvre qui s'appelle comme ça.
Oui, il y a les embryons desséchés, oui.
Voilà, et on retrouve un peu cette fantaisie, en fait, dans les partitions également d'Erik Satie. Hein. Vous avez le livre ouvert avec des partitions qui sont très, très particulière. Il y a des aspects qui ne figurent pas. On peut être un tout petit peu musicologique pendant quelques secondes, Christophe Deluze. Cette partition, qu'est-ce qu'elle a de particulier, en fait, tout d'abord?
Alors, il y a quelques particularités. D'abord, il n'y a souvent pas de barre de mesure. Il a enlevé les barres de mesure. Il n'y a souvent pas d'armature. Donc, il n'y a pas de tonalité. Hein, la tonalité, elle se crée. Et, mis à part les annotations traditionnelles, forte, piano, lent, rapide, il y a des annotations.
Vous pouvez nous en lire
quelques-unes. Ouais. Alors, par exemple, ça, c'est dans les airs à faire fuir. Alors, il y a modestement, sans sourciller, à sucer.
Donc c'est une indication d'interprétation, ça. Hein,
ouais, oui, d'accord. Dans le plus grand profond silence, s'inviter, ne pas trop manger.
Ne pas trop manger, très bien.
Alors bon, il est clair que dans le plus profond silence, on peut deviner ce que c'est, mais ne pas trop manger, c'est plus difficile.
Comment vous faites justement? Comment on considère ces annotations de mesure? Parce qu'on peut se dire que c'est de l'humour, mais il y a plus que ça, probablement qu'il faut y attacher quand même une importance quoi, pour interpréter cette musique.
Oui, alors il y a indéniablement de l'humour, et il y a des gens qui disent « oui, c'était un farfelu, il a mis ça comme ça au hasard ». Et alors je ne crois pas. Parce que quand on regarde les originaux des partitions d'Eric Satie, on voit qu'il y a énormément de corrections et de ratures. Donc c'était quelqu'un de très minutieux. C'était quelqu'un qui réfléchissait exactement à ce qu'il allait mettre. Et je ne pense pas que ces annotations aient été mises au hasard. Alors ce qui est intéressant, on constate qu'il y a souvent des répétitions de motifs sonores ou de thèmes qui sont répétés tels quels. C'est pas Brahms qui va moduler, il y a pratiquement jamais de répétition telle quelle chez Brahms.
Alors toujours chez Satie, il y en a beaucoup, oui.
Chez Satie, c'est répété tel quel. Mais si on regarde les annotations qu'il a mis, c'est pas les mêmes annotations lorsque les motifs se répètent. Et je pense que ça a été mis délibérément par Satie. Et pour moi, ce sont des sortes de devinettes, puisqu'il aimait les devinettes. Et on trouve une analogie aussi dans la philosophie zen, les koans. Ce sont des devinettes qui n'ont pas de solution. Le but, c'est pas de trouver une solution, le but, c'est de faire réfléchir. Et par la réflexion, de vous faire mûrir et de vous faire grandir. Et je pense que ces annotations sont des sortes de koans, ce sont des sortes d'incitations à réflexion. Comment est-ce que je vais jouer? Et comment est-ce que je vais jouer la répétition? Puisqu'on ne peut pas concevoir de jouer un thème répété de la même manière qu'on l'a joué avant. D'abord, c'est plus le même moment. On a déjà dit quelque chose avant et quelque chose après.
Donc, ces indications, parfois, a priori un peu farfelues, en fait, peuvent vous mettre sur des
pistes. Je pense qu'elles nous invitent à réfléchir et à développer notre subtilité de l'interprétation, puisque mes soucis en jouant cette musique, c'était lorsque ces thèmes sont répétés, c'est pas de les jouer de la même manière. C'est de les varier très subtilement pour qu'évidemment il y ait toujours le même caractère, mais pour que, en fin de compte, l'auditeur ait l'impression qu'il entend ça pour la première fois. Que ce soit pas une répétition, mais que ce soit quelque chose de nouveau. Et de trouver ce juste équilibre entre répéter tel quel et changer complètement le caractère, c'est assez délicat à trouver et je pense que ça demande pas mal de travail pour arriver à cet équilibre.
Eric Satie est vraiment un personnage à part hein, de l'histoire de la musique en France, début du XXe siècle, alors peut-être pas farfelu, mais certainement décalé dans sa vie, dans ses propos également. Il a pas mal écrit de textes, vous avez certainement lu ses textes, Christophe Deluce, des textes à la limite du surréalisme parfois. Je me pose la question du lien éventuel entre les textes d'Eric Satie et puis la musique, disons l'humour qui est évident dans les textes. Est-ce qu'on le retrouve? Est-ce que c'est une musique humoristique par moment, la musique d'Eric Satie?
Alors, la musique est extrêmement variée. C'est d'ailleurs un des buts du disque, c'est de montrer les multitudes d'influences musicales qu'il y a. Donc vous avez des œuvres humoristiques, ben comme par exemple ce qu'on vient d'entendre, Espagnana, hein, mais vous avez aussi des œuvres d'inspiration religieuse, la messe des pauvres, qui est quelque chose de magnifique hein, pour orgue et chœur. Vous avez des œuvres mystiques, comme les préludes à la Rose-Croix. On a pas mal d'œuvres inspirées du monde du cirque, dont Parade et les Cinq Grimaces. Et c'était un des buts du disque, c'est de montrer cette multitude d'influences musicales qu'on retrouve dans sa musique. Maintenant, il y a des morceaux qui ont un but humoristique. Par exemple, les embryons desséchés, vous venez de les mentionner. Le premier des embryons desséchés s'appelle Olutiri. Puis à un moment donné, il y a justement un texte dans la partition où c'est mis « Le père se lève, prend la parole et cite une célèbre mazurka de Schubert. » Et dans la musique, on entend la marche funèbre de Chopin. Donc c'est quelque chose de drôle. Mais Satie, en fait, dans beaucoup de ses écrits, et aussi on retrouve ça dans les annotations, dans les partitions, remet en question nos préjugés qu'on a un peu dans notre vie de bourgeois, parce qu'on attache beaucoup d'importance à l'étiquette, au titre, à ce qu'on représente, n'est-ce pas? Par exemple, j'entendais l'autre jour une dame dire « Ah oui, les gens qui viennent de pays défavorisés comme les Philippines ou l'Amérique latine, ils sont bons qu'à faire des ménages ». Et je pense que le problème avec ces préjugés que nous avons et ces étiquettes que nous collons aux gens, c'est que c'est souvent trompeur de dire « Ah voilà, il est médecin, il est intelligent, c'est quelqu'un de bien ». Moi, je connais beaucoup de médecins, enfin quelques médecins
vous
qui sont des gens peu fréquentables et qui sont complètement stupides, ou de dire « Il est premier prix de piano, donc c'est un bon musicien ». Je connais des premiers prix de conservatoire piano qui sont des bons instrumentistes, mais qui sont des piètres musiciens.
Donc toute une remise en question existentielle quand on se plonge comme ça dans
la personne. Oui, alors c'est ça, je pense, qui est intéressant. Satie. Quand on aborde l'œuvre de Satie, il faut l'aborder en tout cas dans la globalité. On peut pas juste s'intéresser à l'interprétation musicale. Et ça nous incite à se remettre en question soi-même et aussi à une remise en question du regard qu'on porte sur l'autre. Mmh. Oui.
Christophe Deluz, vous allez nous offrir de la musique en direct, si vous êtes d'accord.
Oui.
Qu'est-ce que vous allez jouer?
Alors, je vais vous jouer le prélude au Fils des Étoiles. C'est une partition qui a été retrouvée récemment, que beaucoup de gens qui connaissent la musique de Satie connaissent, parce qu'en fait, Satie a voulu l'intercorporer dans une pièce pour orchestre, et pour finir, il l'a mis en prélude à ses trois morceaux en forme de poire. On sait qu'il y a sept morceaux, mais bon, voilà, un peu d'humour. Et donc, on a retrouvé cette partition à deux mains, puisque les préludes en forme de poire sont à quatre mains. Et donc, c'est la version à deux mains, mais de Erik Satie, qu'on a retrouvé récemment, et je vais l'enchaîner sur la première Gnossienne, qui est une de ses œuvres caractéristiques par la simplicité d'écriture dont on peut peut-être parler tout à l'heure.
Je vous en prie, Christophe Deluz, je vous laisse le temps de vous installer au piano juste derrière le micro ici. Donc le pianiste Christophe Deluz qui fait paraître son dernier disque paru donc chez Praga, consacré à la musique d'Erik Satie, un choix d'œuvre pour piano. Il y a même des extraits orchestraux, on en parlera également juste après ces deux morceaux qu'il interprète en direct pour les auditeurs d'Espace 2. la magnifique musique d'Eric Satie interprétée par notre invité Christophe Deluz, donc à l'occasion de la sortie de ce dernier disque paru chez Praga, un choix d'œuvre pour piano. Merci beaucoup pour cette interprétation en direct, Christophe Deluz. Musique simple, musique dépouillée, un peu de tous ses artifices aussi. Moi, j'avais presque envie de le mettre en lien avec la vie d'Eric Satie, qui était lui-même quelqu'un d'assez démuni. Il n'était pas vraiment dans le grand monde. Il a pas mal aussi souffert de sa vie, un peu tiré le diable par la queue par moment. Comment vous comprenez cette simplicité dans l'écriture ? C'est certainement pas un manque d'imagination de la part du compositeur, mais ça fait vraiment d'Eric Satie quelqu'un d'à part, quoi, dans cette scène musicale française du début du XXe siècle.
Absolument. À l'époque où ces gnossiennes et ces gymnopédies ont été écrites, c'était à Paris, l'époque où Wagner était très à la mode. Et du fait de sa sensibilité et de son histoire aussi, il a une enfance quand même assez malheureuse. Je crois que la musique de Wagner était pour lui quelque chose qui n'était pas compatible avec sa sensibilité et sa créativité, d'où ce besoin instinctif d'écrire une musique qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus dépouillée. Et quand on écoute ces gnossiennes et ces gymnopédies, on est touché, émotionné par la simplicité d'écriture. Il faudrait pas rajouter des notes. Il y a juste ce qu'il faut. Un peu comme si Eric Satie avait voulu enlever tout ce qui est superflu, tout ce qui n'est pas nécessaire, et de vraiment garder l'essentiel et d'avoir une musique simple, mais à la fois profonde.
Comment est-ce qu'elle était perçue à l'époque, cette musique d'Eric Satie ?
Alors, par les bourgeois, eh bien, on le prenait pour un farfelu. Mais disons, les musiciens eux-mêmes, Ravel, considéraient que c'était un des grands musiciens de l'époque. Et puis, quand même, la création de Parade a été faite avec Cocteau et Picasso, qui étaient à ce moment-là des gens déjà très connus. S'ils ont choisi Satie, c'est que ça ne devait pas être un mange. C'est qu'ils considéraient que c'était quand même quelqu'un de hors pair.
Vous y voyez un côté un peu visionnaire. Vous parlez musique minimaliste, musique répétitive. Ça, c'est des courants qui ont traversé le 20e, enfin, qui sont apparus dans la deuxième moitié, carrément, du 20e siècle en musique. Il y a ce côté un peu futuriste, un peu avant-gardiste d'Eric Satie, vous trouvez?
Oui, je pense qu'il a été un visionnaire dans la simplification, et moi je pense que ce besoin d'une vie simple va au-delà de l'écriture musicale, et je la trouve très d'actualité de nos jours. On nous prône toujours dans les médias et les politiciens, il faut relancer la croissance, il faut consommer plus. D'un point de vue physiologique, de croître toujours plus, c'est pas compatible avec la vie. Et si vous vous agrandissez sans cesse, généralement, à partir d'un certain degré, ça se fait au détriment de quelqu'un.
Et donc Satie nous met comme ça sur la piste du dépouillement et d'une certaine retenue.
Alors on perçoit souvent le dépouillement comme un appauvrissement. Je crois pas. Je crois qu'on peut brader le superflu sans obligatoirement s'appauvrir. Au contraire, je pense que c'est un enrichissement. Je pense qu'on a tous fait l'expérience d'aller une fois dans son grenier ou d'ouvrir une armoire et de découvrir qu'on a plein de choses qui nous servent à rien.
Dont on n'arrive pas toujours à se séparer d'ailleurs, mais qui nous servent effectivement.
Mais si vous arrivez à vous séparer, eh bien après, ça vous fait comme un soulagement. Vous dites, ouf, voilà. Ben...
Je ferai l'effort, je vous promets, Christophe Deluz. On parlait du répertoire pour piano d'Eric Satie hors micro. Vous me disiez, comme ça, plus ou moins, il y aurait de la musique pour 5-6 CD. Donc vous avez fait une belle sélection. Vous avez parlé de votre volonté d'avoir plusieurs facettes du musicien qui s'exprime. Mais il y a aussi quelque chose d'assez particulier, c'est l'ordre. J'ai presque envie de dire la dramaturgie, comme ça, de votre CD. Vous avez appliqué, vous proposez une sorte de voyage tonal aux auditeurs. C'est comme ça que vous les avez agencés, ces œuvres ?
Oui, vous avez très bien perçu ça. J'ai pris grand soin de que tous ces morceaux s'enchaînent de façon contrastée, ce qui est pour qu'il n'y ait jamais d'ennui, c'est-à-dire qu'il y ait des caractères musicaux très variés d'une pièce à l'autre, mais qu'il y ait toujours un lien musical et notamment un lien tonal entre les pièces, pour pas que ça fasse un patchwork, mais que ça fasse vraiment comme s'il avait écrit une œuvre.
Donc on termine en Do majeur, on reprend ensuite en Do mineur, etc. C'est vraiment cohérent comme ça tout le long.
Pratiquement toutes les pièces ont un lien tonal les unes avec les autres.
Ouais. Donc 33 plages, assez courtes, on en est entre, je crois qu'il y a même certaines plages qui font moins d'une minute, certaines 3 ou 4 minutes. Et puis tout à la fin du disque, les deux dernières plages, une une sorte de surprise qu'on a de découvrir un enregistrement d'archives d'époque, hein, de 1959, Manuel Rosenthal, version orchestrale de la musique pour Eric Satie.
Oui, parce que justement, Parade a été, je pense, un de ses grands chefs-d'œuvre qui n'est pas du tout connu. Et il a fait ça avec Picasso et Cocteau. Et le thème de Parade, c'est en fait montrer le décalage qu'il y a entre le monde du cirque, qui est un monde d'imaginaire, de poésie, de créativité, avec notre monde et ses règles dures et parfois complètement absurdes, puis ça a été écrit pendant la Première Guerre mondiale. Et par là, Cocteau, Picasso et Satie s'insurgeaient contre tous ces jeunes gens qu'on envoyait à la guerre. Et c'est pour ça qu'ils ont écrit Parade. Et Parade a cette particularité, c'est que ça utilise un grand orchestre symphonique et des instruments à percussion très insolites. Il y a une machine à écrire, il y a des fouets, il y a des pistolets. Et ça montre bien l'imaginativité hors pair de ce compositeur. Et quand on écoute ça, c'est une orchestration extrêmement subtile et très inventive.
Ouais. Et donc c'est Manuel Rosenthal et l'Orchestre National de France à la fin des années 50 hein, qui a enregistré cette musique qui figure sur votre disque, Christophe Deluze. Je vous remercie beaucoup pour la visite dans Magma.
Mais merci à vous.
Donc le disque de choix d'œuvres pour piano est disponible chez Praga. On écoute Manuel Rosenthal et l'Orchestre National de France quelques instants. Et voilà, l'Orchestre National de France sous la direction de Manuel Rosenthal, le final de la suite au prélude du Rideau Rouge, donc extrait de Parade d'Eric Satie, un morceau donc orchestral, une plage comme ça, il y a un quart d'heure de musique en tout, qui figure à la fin de l'album de notre invité Christophe Deluze, pianiste, donc un choix d'œuvre pour piano paru chez Praga.